RMC Football Show, l'Afterfoot, François Pinet.
Deuxième heure dans l'after sur RMC, toujours avec Ali Benarbia et Ludovico Bragna qui sont en pleine forme. Il y a Ludovico Bragna qui a trouvé l'amour, hein, puisqu'il est amoureux de Thomas Tuchel, il nous l'a dit là, sur le plateau. Et puis Ali Benarbia qui dans un instant va nous parler de Nice-Bordeaux, pourquoi pas, puisque ça sera dans la deuxième heure, la victoire niçoise face à Bordeaux, une victoire qui fait du bien alors que l'on a appris cette semaine le départ du président et du directeur général. Dans la deuxième heure également, le choc entre Marseille et Monaco, le match de la peur. Est-ce que vous croyez au réveil marseillais? N'hésitez pas à nous joindre au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. Sur Twitter, on parlera aussi du mercato monégasque. Et puis, la Première Ligue au programme avec Chelsea qui gagne, Liverpool aussi, Arsenal perd, mais Nasri brille pour West Ham. Ça sera avec Julien Laurence. Et puis, quelques résultats à vous donner si vous nous rejoignez. La victoire donc du PSG en Ligue 1 à Amiens 3-0. Victoire de Guingamp, on vient d'en parler, contre défaite de Guingamp contre Saint-Etienne, 1-0. Nice s'est imposé 1-0 face à Bordeaux. En Ligue 2, Brest et Troyes ont fait match nul, 1-0. Grenoble et Le Havre 0-0. Et puis en Première Ligue, la 22e journée s'est soldée par la victoire de Chelsea 2-1 contre Newcastle. Liverpool s'impose à Brighton 1-0 grâce à Mohamed Salah. Et puis West Ham bat Arsenal 1-0. Enfin en Italie, la qualification de la Juve pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie, victoire 2-0 à Bologne. On parle de Nice-Bordeaux tout de suite, la victoire 1-0 des Niçois grâce à un pénalty de Saint-Maximin à la 16e minute de jeu. D'ailleurs, est-ce qu'il y a pénalty pour vous?
Non, pour moi, il n'y a pas pénalty.
Moi, je trouve ça très surprenant, honnêtement, hein, parce qu'il y a eu quand même la VAR qui, évidemment, s'est penché sur le sujet.
En préambule, je t'ai dit que j'avais la casquette et que j'en avais ras la casquette. La VAR, à un moment donné, sur le week-end, là, on a encore eu des cas.
Arrive un moment, moi, je regarde pas que la VAR. Arrive un moment, l'arbitre, ils te disent, ouais, regarde un petit peu. Tu regardes.
Non, mais là, il a pas regardé l'image. C'est-à-dire que l'arbitre a pris sa décision parce que lui, il pensait qu'il y avait pénalty. Mm-hmm. Et dans le cas, ce qu'on lui a dit, c'est bon, en gros, il n'y a pas de problème.
Il y a pénalty.
Enfin, on lui a pas dit il y a pénalty, mais on te dit il y a pas matière à revenir sur cette sur cette action.
On voit
il
bien
aurait
que,
pu aller ensuite voir
on
le,
voit bien
dans
que le joueur se jette, on le voit.
Il dit contre Lille Caen. Pareil, 5 minutes pour établir que la faute avait été établie en dehors de la surface. Tu prends l'initiative d'expulser Çelik. Au final, tu te rends compte que c'est plus involontaire qu'autre chose.
Bon, mais quand t'es pas sûr à 100%, le fais pas.
Mais là,
tu siffles pas pénalty, tu mets pas de carton rouge.
Mais 5 minutes pour déterminer ça à chaque fois.
Non, mais là, il ne peut pas y avoir pénalty. Le joueur tombe, il tombe, personne ne le fait trébucher.
Alors, il touche, pour être exact, sur l'image, on voit quand même que dans sa course, touche le joueur, donc c'est pas Jovanovic, c'est Sako, qui touche la jambe de Jovanovic, le défenseur.
Mais même j'entends
beaucoup
de consultants, on dit dès que tu touches un joueur de la surface, mais ça veut rien dire, ça.
Ah oui, mais je suis d'accord avec toi.
S'il y en a un qui m'effleure, il y a pénalty?
Faut rappeler.
Non, il faut vraiment que...
Le foot reste un sport de contact.
On l'a oublié, mais je trouve qu'en Ligue 1, il y a plus de contact. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a contact, c'est coup franc, carton jaune. Et alors, dans la surface, c'est même pas contact. Parce que pour qu'un joueur physiquement costaud, de trop haut niveau, tombe complètement, et pour le faire tomber, il en faut quand même.
Oui.
Mais là, t'as même pas besoin de le faire tomber. Ni toucher, ni trébucher.
Non, mais en plus, l'injustice est sans doute plus exacerbée du côté bordelais parce que il y a justement cette vidéo qui doit permettre d'éviter, à force de regarder les ralentis, d'éviter
pénalty,
de prendre une décision pareille.
C'est pas compliqué. Un pénalty, ça doit être sûr qu'on arrête de dire oui, mais dès que tu touches le joueur de la surface et tu touches pas le ballon, il y a pénalty. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que je suis au coude à coude avec une épaule, avec un attaquant et dans ma surface, qu'automatiquement, si je ne touche pas le ballon, il y a pénalty. Ouais. Et sur ce coup-là, moi, je suis désolé, il n'y a pas pénalty.
On va demander à Yann Pécheral qui est avec nous à 23h04 sur RMC. Salut Yann.
Bonsoir messieurs.
Salut Yann.
Donc pour RMC, ce Nice-Bordeaux. Justement, on parlait du pénalty. Est-ce que ça a fait réagir en conférence de presse?
Bah, c'est-à-dire qu'Éric Bédoué, il nous a dit, moi, je veux absolument pas parler du penalty qui est un fait de match. Donc, c'était en préambule. Et puis, finalement, à la fin, on lui a reposé la question. Il a dit, non, mais je veux pas en parler. Il a dit, j'en ai ras-le-bol.
Voilà. Ouais, donc, c'est compréhensible.
Voilà. Finalement, il s'est un petit peu lâché. Il y a pas mal d'incompréhension. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas poser les questions aux arbitres parce que on a eu le sentiment, à un moment donné, que l'arbitre sifflait pénalty sur le haut du corps, sur la main posée au début
c'est
de l'action.
C'est vrai, il a fait ce geste.
Il a fait ce geste. Donc voilà, on peut pas poser les questions aux arbitres, mais en tout cas, déjà, on aimerait savoir s'il a sifflé sur le haut du corps, sur le bas du corps, on sait pas trop. Bon, toujours est-il qu'il a sifflé pénalty et que finalement, Eric Bédoué, ce qu'il a le plus retenu dans sa conférence de presse et dans ce match, c'est le nombre incroyable d'occasions ratées par ses attaquants, et notamment la maladresse invraisemblable de
Yann Caramo. Mais Yann, ça a été des deux côtés.
Des deux côtés.
Des deux côtés. Sako, il en a raté aussi une flopée.
Là, c'était la conférence de presse d'Eric Bédoué. Donc lui, il a déjà commencé par parler de la maladresse récurrente de ses attaquants. Il a dit que c'était un vrai problème. Et que c'était pas nouveau, que ce n'était pas de ce soir, et qu'il fallait absolument régler ça, parce que bon, c'est vrai que dès le début du match, ils ont deux grosses occasions, les Bordelais, et que ils ont ce regret-là, et ensuite ça a continué toute la soirée. Il y a très peu de tirs cadrés, il y a beaucoup de frappes bordelaises, très peu de tirs cadrés. C'est très compliqué de marquer. Donc voilà, Eric Bédoué nous a dit, c'est vrai qu'il va retenir plus ça finalement que le penalty, même si on a bien compris qu'il était très énervé.
Et alors du côté de Nice, on doit se réjouir dans ce contexte un peu particulier à Nice cette semaine, on doit se réjouir de cette victoire arrachée.
Oui, Patrick Vieira était très satisfait, alors pas forcément par l'ensemble du match et la qualité du match des Niçois, mais surtout par la solidarité montrée par ces joueurs. C'est vrai qu'il y a eu de la maladresse bordelaise, il y a eu de la maladresse niçoise. Sako a raté des occasions, Alain Saint-Maxime n'a pas toujours fait les bons choix. Il y a une très grosse satisfaction ce soir, c'est le petit Eddy Sylvestre qui a fait un très bon match, et Patrick Vieira en a parlé. 19 ans, formé à l'Olympique de Marseille, pas assez bon pour jouer à l'Olympique de Marseille, il a été recruté par l'OGC Nice il y a un an et demi, pas conservé par les Marseillais, et il a eu sa chance, première titularisation ce soir, il a fait un très bon match, très propre. Et
c'est pas beau Yann d'avoir rappelé qu'il a été formé à l'Olympique de Marseille, qu'ils l'ont pas gardé. C'est pas beau, c'est faire ça.
C'est simplement du factuel.
Dis-moi Yann, par contre on pourra revenir à une chose, les supporters cette saison, en regardant l'OGC Nice à domicile, ils prennent plaisir ou c'est comme moi?
Écoute, ils prennent du plaisir.
Ce qu'ils peuvent prendre à gagner, quand il y a la victoire, alors.
Il y a la victoire, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a des problèmes offensifs. On va pas se le cacher, et ça fait partie des problèmes récurrents.
Mais pas que de buts en 19 matchs.
Non, mais pas que de finition. Je veux dire, on n'a plus la fluidité qu'on avait ces trois dernières saisons dans le jeu.
Non, mais Ali, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. T'as vu ce que t'as perdu, t'as vu le flou artistique du moment, t'as vu le Cabalotelli être sixième, et c'est extraordinaire aujourd'hui, c'est miraculeux.
Je suis pas vraiment d'accord. Il y a un
non, ça joue bien, ça va.
Buts, mais dans le jeu, non, mais pas toujours. Voilà, ce soir, on peut pas dire que l'OGC Nice est réalisé.
Mais ça fait un moment, Yann. Je les regarde, moi.
Il y a eu de meilleurs matchs que ce soir de la part de l'OGC Nice, et c'est vrai que les résultats
cachent beaucoup de choses.
Moi, je suis pas forcément d'accord. Il faut regarder les matchs à domicile et à l'extérieur.
Non, les deux. Après, je regarde les deux, moi. Il se crée des occasions parfois.
Yann,
je suis d'accord avec toi.
Les Niçois, ça prouve quand même aussi qu'il y a du jeu. Ça prouve que il y a des mouvements et que cette équipe, elle crée quand même quelque chose. Et il y a un gros problème de finition. S'il y avait la finition qui était un petit peu mieux réalisée, je pense que on n'aurait peut-être pas ce discours. Ali, peut-être que
au vu des circonstances, si tu es supporter niçois, tu peux être content quand même.
C'est quoi les circonstances? Tu parles par rapport à...
Favre, tu perds déjà un entraîneur exceptionnel. Tu tentes le pari Patrick Vieira. Tu te retrouves avec le cas Balotelli.
Tu perds des joueurs importants.
Tu perds des joueurs importants.
C'est Ripley.
Tu fais des coups où les joueurs que tu as pris, Maolida, tout ça, c'est pas forcément une réussite. Donc... Pour moi, je suis supporter de l'OGC Nice, et je suis plus qu'heureux, même si c'est pas un football total et on voit pas que beaux matchs, mais Vieira, je suis supporter de l'OGC Nice, je suis heureux.
Non, mais au niveau comptable, Vieira, il doit être content. Mais maintenant, si tu lui poses la question, il te dirait, oui, mais Ali, qu'est-ce que j'ai comme joueur pour pouvoir vraiment développer le jeu que je veux développer? Et c'est là le problème.
Alors,
Patrick Vieira, il a une nouvelle fois dit qu'effectivement le club a ciblé des joueurs pour renforcer cette équipe au mercato, notamment d'un point de vue offensif, notamment d'un point de vue créatif, que ces joueurs ont été ciblés, que ces joueurs ont été quasiment recrutés puisque les dirigeants niçois s'étaient mis d'accord avec certains joueurs, ouais, là, en accord avec la cellule de recrutement, en accord avec Patrick Vieira, et que les actionnaires sino-américains ont décidé de ne pas donner leur accord pour que ces joueurs viennent à l'OGC Nice, et c'est pour ça que ça a provoqué ce qui s'est passé hier, le départ de Jean-Pierre Rivière et Julien Fournier, parce que la situation elle est sclérosée et qu'à partir du moment où on ne peut pas recruter les joueurs, ça devient compliqué pour tout le monde.
Yann, j'ai mon avis là-dessus, mais est-ce que c'est un coup de poker aussi d'annoncer comme ça
Pas du tout. Je vais même pas te laisser finir.
C'est une certitude qu'ils partiront.
C'est une certitude qu'ils partiront. Le seul petit espoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier cherchent depuis des semaines et des mois, en accord avec les actionnaires sino-américains, de nouveaux partenaires et de nouveaux actionnaires.
Ils sont quoi déjà? Deux groupes actionnaires, c'est ça?
Ouais, les propriétaires, oui. Trois.
Ils cherchent encore?
Ils cherchent encore. Les propriétaires actuels, ils cherchaient, il y avait deux options. Soit ils trouvaient de nouveaux actionnaires qui venaient à rajouter au pot et augmenter le capital. Mais si quelqu'un arrive demain avec
et rachète tout le monde, c'est ça que tu veux dire.
Le club sera à vendre. Le club est vendu demain s'il y a suffisamment d'argent. Alors, je vais pas te dire que demain il n'y a pas parmi les gens qui ont été contactés avec qui il y a des discussions de la part du management de l'OGC Nice d'aujourd'hui. J'en sais rien moi ce qui va se passer, mais si demain le club est vendu et que je sais pas, peut-être ils laisseront Julien Fournier à la tête du club, pourquoi pas.
Oui.
Ça me semble plus compliqué pour le président Rivière qui a expliqué hier que oui. Pour lui, le football, c'était terminé. Qu'il avait fait ce qu'il avait fait à faire à Nice, qu'il avait d'autres choses dans la vie désormais, ouais. et que le football, c'était pas son métier. Julien Fournier, c'est son métier.
Mais Yann, on sent que ce départ, il est lié à l'usure des relations entre ces deux personnes qu'on vient de citer et le board, enfin les actionnaires, ces tensions-là qui font qu'à un moment donné, c'est plus possible. Sinon,
exactement. Les problèmes ont commencé il y a à peu près un an avec les actionnaires qui ont décidé de récupérer une partie des comptes courants d'actionnariat. C'est là que ça a commencé à grincer des dents et puis petit à petit, tout a été compliqué pour le recrutement cet été. À chaque fois qu'il a fallu recruter un joueur, il a fallu que Jean-Pierre Rivière et Julien Fournier se démènent et presque menacent de partir pour qu'on puisse recruter Youssef Attal.
Est-ce qu'on est d'accord tous les deux pour dire que ces deux personnes ont été quand même particulièrement brillantes, même si on a vu un peu de flou cet été, notamment avec le cas Balotelli, la gestion du cas Balotelli, etc. Mais est-ce qu'on peut quand même être d'accord tous les deux sur le fait que ces gens-là ont réussi à créer quelque chose du côté de Nice qui n'avait jamais été fait depuis un très long moment?
Le côté factuel, tout simple, qui est de dire que Jean-Pierre Rivère, il a racheté le club en 2011, 50% de départ pour 12 millions d'euros, qu'aujourd'hui on considère que le club est valorisé à plus de 100 millions, les deux ont formé un duo absolument parfait, avec Jean-Pierre Rivère qui prenait toute la partie médiatique et Julien Fournier dans l'ombre, qui était un peu plus dans l'opérationnel. On peut rappeler les entraîneurs qu'ont fait venir ce duo-là, Claude Puel, Lucien Favre, Patrick Vieira,
les coups qu'ils ont fait, c'est énorme.
Avec Atem Ben Arfa, avec Mario Balotelli, Belanda. Avec Younes Belanda, il y a eu de très grands joueurs. L'OGC Nice a retrouvé la Coupe d'Europe par trois fois. L'OGC Nice a goûté à la Ligue des Champions. L'OGC Nice a été champion d'automne. L'OGC Nice a terminé troisième, a terminé quatrième du championnat. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les dirigeants niçois, ils vont laisser un club avec des finances saines et que on peut considérer qu'ils ont remis l'OGC Nice parmi les
places propres. Donc on est d'accord sur le fait que ça sera une énorme perte pour l'OGC Nice.
Le sentiment général qui prédomine ici. Maintenant, pourquoi pas les nouveaux actionnaires, ils ont le droit aussi de nommer demain des gens compétents.
Est-ce qu'on a des idées, déjà une idée sur les remplaçants potentiels de
de Jean-Pierre Hilaire?
Il y a deux rumeurs persistantes. L'une, depuis de nombreuses semaines, il s'agit de Damien Comolli. Son nom revient sans cesse autour de l'OGC Nice. Mais on en a parlé ce matin dans les grandes gueules du sport. J'en ai parlé un petit peu. Celui dont le nom est de plus en plus susurré depuis 48 heures, il s'agit de Gauthier Ganaye. Alors, ça va pas vous dire grand-chose parce qu'il n'est pas très connu ici en France. Il est assez jeune, c'est un jeune dirigeant. Il est aujourd'hui directeur du football à Barnsley. Barnsley, c'est l'autre club des actionnaires sino-américains. Et c'est lui qui gère un petit peu ce club de Barnsley. Alors, est-ce qu'il faut en être rassuré ou pas? Ça, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, parce qu'on connaît très peu le club et on connaît très peu ce garçon, ce qu'on peut juste dire, c'est de côté factuel encore une fois, c'est de dire que depuis qu'ils sont arrivés, le club était en deuxième division. Il est descendu en troisième division. Je suis pas sûr que ça rassure totalement les supporters de l'OGC.
Je suis fatigué dans le football de tout ce copinage là, de mettre les copains de ceux qu'on avait dans l'ancien club, du tout.
C'est pas du copinage.
Ça me fatigue. Ça me fatigue, Ali. Non, t'as des gens qui sont
faire
compétents.
Confiance il te le dit, Yann. Comme ça.
Il te le dit, Yann. Ils sont arrivés, ils l'achètent en 2011, le club il vaut 10 millions, il en vaut 100. T'as pris des paris sur des joueurs sur lesquels n'importe quel même gros club français ne serait même pas, s'y serait même pas risqué. Mm-hmm. Ils ont réussi, ils ont tenté des paris, ils ont réussi à créer quelque chose du côté de l'OGC Nice. Reviens. Et là, aujourd'hui, tu te fais virer.
Mais quand t'as pas
enfin,
de
ils prennent leur démission parce que la situation. Ils démissionnent parce que la situation n'est plus tenable. Et tu vas mettre un mec qui est descendu, enfin, qui était à Barnsley, qui a eu des résultats bien.
Rien à voir.
Peut-être que t'avais travaillé avec lui avant.
Rien à voir avec le champion français, c'est surtout ça.
Écoute-moi.
Juste préciser, qu'ils ne sont pas virés.
Non. Ils sont pas virés, mais ils démissionnent sous pression de la tension.
C'est pas une démission. Ils avaient annoncé en début de saison aux actionnaires qu'ils terminaient la saison et qu'après il fallait les remplacer. Voilà. Ils anticipent ce départ-là parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent plus travailler. Voilà. Et on comprend bien que pour le bien de l'OGC Nice, à partir du moment où eux-mêmes ne peuvent pas faire de transfert et des recrues, et il faut qu'ils partent. Il faut que quelqu'un vienne pour faire ces transferts.
Bon, juste Yann, pour finir, parce qu'on va devoir le libérer, juste par rapport à Patrick Vieira, il n'a pas parlé en conférence de presse de, j'imagine qu'il a été interrogé là-dessus, sa motivation et sur son envie de rester au club, parce que tu vas pas me contredire, mais s'il est venu, c'est aussi parce que c'était Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier à la tête de l'OGC Nice.
Il s'en est pas caché, il s'en est jamais caché d'ailleurs, Patrick Vieira. Il a toujours dit que les bonnes relations qu'il entretenait avec Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier avaient grandement contribué à son arrivée à Nice. Alors il ne les connaissait pas avant, ils se sont rencontrés, ils se sont découverts. Julien Fournier est allé à New York et le charme a fonctionné entre ces trois-là. Il a avoué ce soir qu'il a pris un gros coup hier, une sorte d'hypercute quand on lui a appris que c'était le départ
il vient de lui dire de toute façon.
Ce sont Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère qui l'ont annoncé avant de l'annoncer à l'ensemble des salariés. Mais il savait qu'il y avait des problèmes relationnels entre tout le monde. Il le savait dès le départ. Il ne pensait pas que c'était à ce point-là. Il ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Donc oui, il a accusé le coup hier. Il l'a dit. Il a clairement dit en conférence de presse. Par contre, quand on lui a posé la question de sa motivation, il avait aucun doute et on a senti aucun doute. Patrick Vieira est archi motivé. Patrick Vieira est heureux à Nice. Il est heureux à Nice. Ouais, il a pris un coup. Il a pris un coup moral. Maintenant, il est un petit peu dans l'attente. Hein. Il demande à voir ce qui va se passer, voir qui va arriver, voir ce qui va se passer au mercato. Et puis il est dans l'attente. Mais il a dit risque de lui.
Non, mais le temps que Fournier trouve des nouveaux actionnaires et voilà.
Bon, merci beaucoup Yann.
Bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup.
On te retrouve évidemment sur l'antenne d'RMC très régulièrement. On va prendre Tony au 32-16, supporter niçois, dans l'after à 23h18 maintenant. Salut Tony.
Salut Tony.
Salut messieurs.
Salut Tony.
Alors bon, au-delà du contexte particulier, pour revenir très brièvement sur le match Nice-Bordeaux, tu dois être soulagé. Mais est-ce que tu fais partie de ceux qui gardent uniquement le résultat, ou tu regardes un peu la manière et tu te dis bon? Ben, il y a quand même du travail.
Ah ben, moi, je suis du côté de bon, il y a encore du travail, clairement. Pour revenir à ce dont on parle quand on parle de Nice souvent, on parle souvent de notre manque d'efficacité. Alors moi, je veux bien, on retient nos trois points. Il y a des choses à améliorer dans la construction du jeu, dans les occasions, même si j'ai enfin vu des appels des attaquants vers l'avant. mais en créant un peu de profondeur. Mais voilà, encore une fois, le conseil est clair. On a gagné 1-0, tant mieux, je suis content. On risque pas d'avoir peur pour le maintien, ce dont j'avais un peu peur quand je voyais notre efficacité offensive. Mais voilà, on a gagné sur un péno. Faut pas l'oublier. On provoque. Saint-Maximin, ses dribbles, c'est très bien. Moi, je suis le premier à vibrer quand il fait des choses jolies. Mais voilà, le joli, ça suffit pas. Et à un moment, faut que ça crée des décalages. Faut qu'on ait des solutions devant, de la profondeur. Et on les a pas aujourd'hui. On les a toujours pas. On a toujours pas notre vrai neuf. Et vu la situation derrière du club dont je viens de parler, Yann, pendant longtemps, on risque pas de l'avoir d'ici à Saint-Maximin d'hiver. Donc, je suis inquiet sur la manière. Je suis content qu'on ait gagné contre Bordeaux. Surtout que j'ai pas mal de potes bordelais que je suis content de saluer.
Le message est passé.
Mais en tout cas, ouais, je suis assez inquiet pour le futur. Je pense qu'on jouera pas grand-chose cette saison en Ligue 1 et que le duo Rivière-Fournier va nous manquer à court terme.
Dis-moi, Tony, je m'inquiétais pour les supporters niçois, pas au niveau des points, mais au niveau du jeu. Vous avez l'habitude pendant 3 ans d'avoir du beau football à Nice. Et cette année, je sais pas si t'as pu en voir un petit peu. Déjà d'une, de deux, on parle d'attaquant et d'efficacité. Il te reste plus que Saint-Maximin puisque Balotelli n'est plus là. Et en termes d'efficacité, s'il est sur le peu de buts qu'il a marqué, c'est sur 4 tirs, c'est 4 tirs contrés. C'est le seul moment où il a marqué. Et donc, comment tu veux que cette équipe de Nice et Patrick Vieira puisse vraiment développer d'un jeu et terminer les actions efficacement si tu n'as pas les joueurs pour ça? Peur que si tu te retrouves pas à avoir un pénalty ou à marquer le premier, que tu te retrouves comme un début de saison avec plusieurs défaites d'affilée.
Ah mais moi ça j'en suis persuadé et c'est cette saison on a une évolution par rapport aux saisons précédentes qui on mise un peu plus sur notre solidité défensive. C'est un peu dur de dire qu'on n'a jamais vu de jeu, j'en ai vu quelques fois, mais c'est pas du jeu, comment dire, c'est pas du jeu sur la profondeur, c'est pas du jeu moderne de transition offensive rapide. On est sur du jeu de position où quelquefois on
est à peu près.
Voilà, c'est ça, c'est où on va avoir du mal à faire la dernière passe ou l'avant-dernière passe parce que la solution est pas là, l'appel n'est pas là. Et voilà, après, j'ai vu quelques fois du jeu, mais voilà, faut pas se voiler la face, on l'a pas notre attaquant. Saint-Maximin, c'est pas un tueur et on le savait. Okay.
Savez quoi, moi quand je vois Nice 6e à 4 points de Lyon avec l'effectif qu'a Lyon et l'effectif qu'a Nice, sachant ce dont on vient de parler, et ben moi je dis chapeau.
Merci Tony. Ah oui, merci beaucoup d'être passé dans l'after. À très bientôt. Un petit mot de Bordeaux quand même pour vous donner le classement. 13e Bordeaux. Hein. Alors oui, il y a 18 matchs joués, mais 22 points Bordeaux, donc qui va peut-être, en tout cas, avoir des difficultés dans les jours à venir. Hein. Bon, là,
on parle d'un club où on parle plus, dans le sens où les dirigeants, on ne sait pas.
C'est la pire équipe à l'extérieur.
Hein, la lecture de ce qu'ils vont faire au niveau du directeur sportif, du management sportif, on ne sait pas, on n'en sait rien. L'effectif, si tu demandes à beaucoup de joueurs qui jouent aux Girondins de Bordeaux ou un jeune par rapport à quoi il a sa petite star ou sa firmée, mais je sais même pas s'il pourra te répondre parce que on se pose tellement de questions sur cette équipe des Girondins de Bordeaux. Qu'à l'année maintenant, où chaque fois ils se rattrapaient dans les derniers, la fin de deuxième partie pour accrocher toujours une Coupe d'Europe, cette année ça va être très dur. Ouais. Et je me pose des questions sur ce club. Je sais pas quand les dirigeants vont prendre la décision de montrer ce qu'ils veulent faire.
Ils sont toujours qualifiés en Coupe de la Ligue.
Non, mais ils jouent contre Strasbourg. Non, ça oui, c'est ce que je dis. Ils arrivent toujours.
Non, mais voilà, c'est peut-être ce qui va se passer la saison de Bordeaux.
Au niveau du jeu, au niveau ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils voudraient faire, on attend toujours que les dirigeants se positionnent.
Non, mais rien de nouveau sous le soleil, Ali. Les dirigeants viennent d'arriver. Tu sais que tu es dans une saison où il ne se passera rien, puisqu'il est trop tard pour intervenir quasiment sur le mercato, puisque tu viens à peine de nommer ton président. Sachant que ces deux entités qui sont à la tête du club maintenant, entre José da Grossa, King Street, il faut aussi que chacun trouve sa place. Il n'est pas encore déterminé le projet sportif. T'as Eric Bédoué qui est devant Ricardo, qui peut pas intervenir.
Donc saison de transition.
Saison de transition. Okay. N'attendons rien de cette saison du côté des Girondins.
Hein, visiblement,
mais Joseph da Grossa, ils sont venus pour faire du business. Ouais. Donc Joseph Cavano, si tu le vends à 15, Eh ben, il va partir, Kamanou. Mais c'est tout.
Allez, on parle dans un instant sur RMC dans l'after de Marseille-Monaco. C'est le match de la peur. C'est le choc de la 20e journée. Attention aux perdants. On est toujours avec Ludovic Obraniak et Ali Benarbia. Et on compte sur vous. À tout de suite.
RMC Football Show. L'after foot. François Pinet.
23h28, on est de retour dans l'after, ravi d'être ensemble jusqu'à minuit avec Ali Benarbia et Ludovic Obraniak, les inséparables. On va parler tout de suite de Marseille-Monaco. C'est demain, 21h à suivre évidemment sur RMC. Et c'est un match qui va coûter cher. Semaine très difficile, vous l'avez suivi à l'Olympique de Marseille. Après la défaite contre Andrézieux, il y a les supporters de Marseille qui ont prévu de venir nombreux au stade Vélodrome pour faire part de leur mécontentement. Ça risque de gronder, notamment contre Rudy Garcia. Il y a eu des tags aussi cette semaine sur la commanderie. Et puis alors, il y a eu des mesures visiblement prises par Rudy Garcia, c'est ce qu'il a dit cette semaine. Remobilisation générale pour les Marseillais. Ils se sont parlé, le groupe s'est parlé. Écoutez ce qu'a dit Florian Thauvin. C'était hier en conférence de presse. Bah pour lui, ça va changer les choses.
Je pense que lors des précédentes discussions, pour être très honnête, on a tourné autour du pot. Aujourd'hui, on est allé à la base, on a pris le problème à la base et on s'est dit les choses tous ensemble. Et ce que j'ai apprécié de la part de tout le groupe, c'est que ce soit autant les plus jeunes que les plus anciens, tout le monde a été dans la capacité d'entendre ce qui lui était reproché. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on est reparti sur des bonnes bases et c'était important de le faire. C'est la différence qu'il y a eu avec les précédentes conversations.
Alors, quand vous écoutez Florent Thauvin, est-ce que c'est suffisant pour vous pour parler, croire à un réveil marseillais?
De parler, enfin, j'ai souvent vu, moi ça n'a jamais rien servi, de se dire les choses à la mi-temps, à la fin de match, à l'entraînement, quand ça va pas, oui, c'est une bonne chose, sur le terrain, pas en dehors du terrain, en groupe, ça ne sert à rien, mais footballistiquement.
Aucune mise au point pour toi dans ta carrière?
Les mises au point se font à l'entraînement, à match, à la mi-temps, quand il s'agit de football, mais d'être ensemble, de se parler, dire « bon, mais maintenant, il y a ceci qui va pas et tout », c'est pas ça qui fait réagir. Il faut agir et que chaque joueur, au lieu d'être à 100%, mais il doit être à 400%.
T'as jamais connu ça? T'as jamais connu
si,
une crise comme à Marseille?
Si, non, parce qu'on appelle pas ça une crise, quand ça va pas du tout, ben tu dois en faire toujours plus. Mais là, j'ai l'impression qu'ils en font moins. C'est-à-dire qu'ils regardent l'autre, mais tu dois rattraper tout le monde quand ça va pas. Même si t'es attaquant au milieu de terrain, tu dois faire plus d'appels de balles, même si on ne te donne pas la balle. Tu dois être toujours devant le but et y croire jusqu'au bout. Tu dois défendre beaucoup plus. Mais là, quand je vois l'Olympique de Marseille, c'est tout le contraire. C'est que quand un joueur fait un pressing, les autres le regardent. Et quand ce même joueur qui regardait les autres, lui, fait le pressing, c'est les autres qui le regardent. Et donc, chacun se regarde en disant, tu fais pas. Mais c'est pas ça du tout, hein, la réaction. C'est de tout faire, même si l'autre n'en fait pas. Ben, t'en fais triple, quadruple. Il y a que ça. Tu dois montrer l'exemple, pas en discutant en groupe, mais c'est sur le terrain. Et c'est toi qui tire.
Ah, alors on verra la réponse.
C'est surtout ça.
Évidemment demain, on verra s'il y a eu un effet par rapport à cette semaine marseillaise.
Parce que Rudy Garcia,
Gustavo a dit ses quatre vérités.
Il a plus de ressort du tout là.
Payette, tout le monde a dit aussi ce qu'il avait sur le cœur. Ludovic, tu partages ce que dit Ali, ça sert à rien.
Il y a une expression qui me vient en tête. Il dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue.
Donc,
certes.
Quoi,
oui, ça va pas régler
la prime.
Ça va pas non. Et ça va pas régler tous les problèmes de l'OM, cette réunion.
Du tout.
Mais je me dis que ça peut être une première étape.
Ah, ça fait plusieurs
à quelque chose.
Plusieurs
non, mais là il te dit, on a
ça
fait.
A changé.
On a fait des choses, on s'est dit des choses, mais ça a été peut-être.
Il tournait pas
le statut un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'on se dit des choses, parler pour parler. Là, il se dit, on s'est vraiment dit les choses, on a pu parler de manière à se dire concrètement ce qui se reproche les uns les autres. Pourquoi pas entre le staff, les joueurs, on le sait, il y a des problèmes. On en a discuté cette semaine. Certains veulent plus de salaire, d'autres moins. Le staff, on n'est pas écouté. Voilà, il y a eu des choses. Peut-être des non-dits qui ont peut-être été réglés à ce moment-là. Moi, je l'ai dit hier, pour moi, il y a une personne qui peut être le garant de l'institution. Je pense que, même si j'étais partisan de penser que Rudy avait encore les ressorts psychologiques avant la trêve, je trouve que la défaite à Andrézieux, elle est terrible. Elle est terrible.
Elle les a plus, les ressorts.
Elle est terrible. Pour l'entraîneur, c'est terrible. Et pour moi, il y a un mec Alors je suis peut-être idéaliste ou je sais pas, c'est peut-être un truc fantasmé, mais j'ai entendu qu'il y en avait un qui avait pris la parole, et quand il a pris la parole, tout le monde a regardé les godasses et a écouté, et c'est Luis Gustavo.
Ouais. Mmh.
Pour moi, lui, c'est ça devrait être l'élan de charisme, de d'aura,
lui qui montre l'exemple,
qui manque à cette équipe et qui pourrait peut-être à nouveau fédérer tout le monde pour justement aller dans un but commun, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas un égo surdimensionné, non, qui est un très bon footballeur, qui est un homme respecté et respectable.
Mais ça va pas pourquoi aussi, Ludo? Parce qu'il fait pas une bonne saison, lui.
Non, mais peut-être.
C'est surtout pour ça.
Peut-être.
Mais c'est beaucoup plus dur. Et quand t'es moyen sur le terrain, ben déjà, t'as, pour quelqu'un qui parle pas autant que lui,
Ben
tu vas avoir du mal à parler. Et c'est quand t'es bon sur le terrain que tu tires les autres. Hein.
Quand les autres sont également meilleurs que toi. Et là, en l'occurrence,
il y a personne.
Il y en a pas un qui peut relever l'autre.
Et ce qui sauvait cette équipe de l'OM, c'était quoi? C'était que Thauvin n'avait jamais fait une saison avec autant de buts. À chaque fois, il les a sauvés, et ça, on l'a oublié souvent. Mais cette année,
il est parti sur des bonnes bases aussi,
Thauvin. Exactement. Thauvin,
hein. Ouais.
Mais il est parti sur des bonnes bases, et depuis qu'il marque plus, ça devient une catastrophe pour l'OM parce que c'est lui à chaque fois qu'il les sauvait. Mmh. Et ouais, là, mais il les sauve plus.
Il est.
Ah ben c'est là que tu vois les carences de l'OM.
Il est devenu le leader technique de cette équipe. Mmh. Mais encore une fois, je te dis, il y a des hommes dans des groupes qui sont soit des garde-fous, c'est-à-dire des Roy Keane, des mecs comme
le
ça
relais
qui
de
spontanément sont des leaders, des relais qui ont un charisme naturel. Et puis t'as des comme ça, des gens bienveillants qui sont comme ça, qui ont une aura, qui dégagent quelque chose, qui inspirent le fait que t'as envie de te regrouper autour de lui. Et moi, c'est lui qui peut être le point de départ peut-être de quelque chose.
À ce que Garcia change vraiment des choses, c'est-à-dire sur le terrain, tactiquement, les hommes.
Il a tout essayé.
Non, mais qu'est-ce qu'il a sur
tactiquement, les hommes,
il a plus
énormément de ressorts.
Moi, je pense que le seul problème de Rudy, c'est que à vouloir forcer les choses, puisqu'il était bien avec son milieu, aussi bien Sanson que Gustavo, voire même le petit Lopez, où on sentait qu'il y avait à vouloir forcer les choses avec Strootman, sous prétexte que Ganguissa était parti.
Ça fait quelques matchs qu'il joue plus d'ailleurs, Strootman.
Il a peut-être déréglé. Même si cette équipe n'était pas exceptionnelle, il a déréglé. Et quand tu forces trop, c'est pas bon.
Ces choix vont être déterminants. Mais c'est les joueurs qui vont déterminer.
Les joueurs, de toute façon.
S'il restera ou s'il ne reste pas, les joueurs qui ont la clé, c'est pas lui.
Alors, Damien est au 32-16 à 23h35 dans l'after. Salut Damien.
Bonsoir à toute l'équipe.
Salut Damien. De l'Olympique de Marseille. J'imagine que tu attends cette rencontre avec impatience et angoisse peut-être aussi.
Du moins, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, certes, mais je suis en première année en école de journalisme. Donc, il faut à la fois donner son côté supporter, mais à la fois objectif quand même.
Alors là, dans l'after, tu peux parler comme un supporter, hein, mais
voilà. Enfin,
tu peux parler comme avec le cœur de supporter, mais avec les propos d'un journaliste. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci. Donc, plus dans le côté supporter, l'Olympique de Marseille, si on parle de réveil, qui est votre question de base, c'est encore tôt. La réunion de mardi entre tous les joueurs dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille, c'est pas la solution qui va faire que demain, à partir de demain, l'Olympique de Marseille va se réveiller. C'est pas un discours, c'est plutôt sur le terrain, comme vous disiez ce soir dans l'after. Il y a beaucoup de choses en termes d'égo des joueurs, beaucoup de gestes d'agacement sur le terrain, beaucoup de manque de communication, à la fois offensivement, à la fois au milieu de terrain, qui fait que les joueurs se cherchent sur le terrain. Il y a Rudy Garcia également, qui s'est que tâtonné depuis le début de la saison, avec Camara qui apparaît et qui disparaît sur le terrain. Ça fait depuis Marcel Limassol en Ligue Europa qui n'a pas joué une seule minute. Kevin Strootman, depuis le match et son arrivée à l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco, il n'a plus fait grand-chose. Quand on parle de recrutement, c'est Rudy Garcia qui a la même mission de recrutement. Donc, il y a beaucoup un organigramme à revoir. On parle de l'OGC Nice en ce moment qui va refaire son organigramme. À l'Olympique de Marseille, il faudrait revoir un peu le rôle de chacun, les responsabilités. Rudy Garcia, c'est pas celui qu'il faut virer. Et il a beaucoup de choses encore à faire à l'Olympique de Marseille, notamment trouver son 11 type. Il a mis beaucoup son 11 type, notamment face à Limassol, face à Andrézieux. C'est quand même une équipe cheap. On perd contre des équipes comme ça. C'est incroyable de voir l'Olympique de Marseille. Ça fait pas si longtemps que ça que l'Olympique de Marseille était en finale de Ligue Europa. Il y avait une cohésion de groupe que l'Olympique de Marseille a perdu. Beaucoup de valeurs, beaucoup de principes qui n'y sont plus. Hormis Luis Gustavo, même s'il fait une saison pour l'instant à la hauteur des autres joueurs. Thauvin, depuis Amiens, c'est la dernière victoire de l'Olympique de Marseille, quand même le 25 novembre toutes compétitions confondues, c'était Amiens 3-1. Il claque un triplé. Depuis, Thauvin n'est plus aussi.
Mais qu'est-ce que tu leur reproches quand tu vois cette équipe de Marseille comparée à l'année dernière, on ne peut pas la comparer. Ça devait être l'année de la confirmation et c'est le même groupe avec des recrues en plus en fait qui t'ont servi à rien. Mais qu'est-ce que tu Mais tu les as quand même les joueurs de la saison dernière. Qu'est-ce que tu reproches à cette équipe, à ces joueurs cette année pour toi?
Les joueurs n'y sont plus. On voit par exemple des Florent Thauvin sur le terrain, même s'il a encore ses statistiques. On voit que il pèse dans le dernier GS. On voit que il y a quand même beaucoup d'individualité dans cet effectif. Il y a plus cette cohésion de groupe qui était là l'année dernière, qui a permis à l'Olympique de Marseille, parce que dans le jeu l'année dernière, c'était pas meilleur que cette année, mais il y avait de l'envie, il y avait de l'énergie, ce qu'on retrouve pas cette année, et c'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille pour essayer d'accrocher le podium. Marseille a quand même perdu contre Paris, entre guillemets, qui est logique en termes d'objectivité. Derrière, on perd contre Lyon, qui est plus fort sur le papier. Enfin, ils montent leur niveau quand ils affrontent une équipe de leur calibre, entre guillemets, que Manchester City. Mais derrière, il y a Lille, on perd contre Lille, on perd contre Montpellier, ce que
Marseille n'a pas fait
l'année dernière. Donc, il y a deux équipes qu'on ajoute en plus à des défaites. Et depuis le début de la saison, c'est l'année dernière, il me semble que l'Olympique de Marseille avait fait 12 défaites toutes compétitions confondues sur toute la saison. Là, ça est déjà 13 défaites depuis le début de la saison.
On a tendance aussi à ne pas parler de... Il y a eu une chose déterminante pendant l'intersaison.
Merci Damien, qui est passé
derrière.
Merci beaucoup Damien d'être passé dans l'After.
C'est la Coupe du Monde.
Merci.
C'est-à-dire que ces joueurs-là jouaient une place dans un groupe qui était susceptible de jouer le dernier carré de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que eux, ils étaient sur le qui-vive, adrénaline, tout ce que tu veux, pour jouer Adil, Steph, c'était assuré, Thauvin, Dimitri, c'était des gens qui étaient
Payet n'était pas là.
Dimitri Payet.
Non. Avant d'y aller.
Donc ils étaient boostés toute la saison.
C'est-à-dire que toute la fin de saison, t'as une place dans la liste à jouer pour la Coupe du Monde.
Donc là, ils ont plus de motivation.
Mais c'est pas qu'il n'y a plus de motivation, derrière, toi, tu fais ta Coupe du Monde. Dimitri joue son dernier match. Il veut jouer la finale, hein?
C'est un peu inquiétant ce que tu racontes. S'ils ont besoin
de... C'est pas de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs, de joueurs que ils ont un championnat
de joues à Marseille dans un stade avec des supporters que tu as des objectifs quand même fixés par le club et plutôt des salaires intéressants, tu dois trouver la motivation quand même.
Non, la motivation ils l'ont, mais se dépasser, on parlait de se dépasser. C'est ça.
Aller chercher plus loin, la cohésion,
c'est peut-être se dépasser pour être à la liste.
Alors, je voulais parler de Monaco quand même très vite, puisqu'on en parlera beaucoup demain sur RMC, mais Monaco, dernière info en date, le prêt finalement officialisé de William Vainqueur, le milieu d'Antalya Sport. Dans un premier temps, Monaco avait renoncé à le recruter suite à une blessure au mollet. Finalement, ils étaient convaincus par le discours du joueur qui a demandé aux dirigeants de ne pas être payé pendant son absence. Donc, il pourrait être absent 4 semaines et il ne sera pas payé pendant ce mois-ci. Serge Fabregas, lui, recruté hier pour un contrat de 3 ans et demi, est déjà dans le groupe pour affronter l'Olympique de Marseille, pour être titulaire, pourquoi pas. Tout comme Fodé Ballo-Touré, qui lui a été recruté en provenance de Lille pour 11 millions d'euros. Et puis, plutôt dans le mercato, c'est Naldo, qui avait rejoint Monaco. Est-ce que le mercato monégasque, très rapidement, messieurs, vous pensez que ça assure le maintien de Monaco?
Je sais pas.
Sur 19e, 13 points à 3 points du barragiste Dijon.
Ça va être encore dur maintenant, c'est de savoir si ces joueurs sont prêts à aider de suite cette équipe, prêts, frais, à 100%. Ballo Touré, on sent qu'il est prêt, il a été très bon à Lille. Fabregas, je l'ai vu encore jouer avec Chelsea, ça a la fraîcheur, il est sûr de lui, sûr de sa technique, dans le rythme. Naldo, va toujours être présent. Vainqueur, on ne sait pas, puisque apparemment, il est arrivé blessé. Donc, mais
et puis un par ligne, c'était bien. Pourquoi pas d'un attaquant aussi, Batshuayi, c'est aussi
un par ligne, il te manque manque cet attaquant sûr, qui va être là pour accompagner.
Et là, avec ça, c'est bon, Monaco est sauvé.
Avec ce style de joueur et une nouvelle colonne vertébrale, style Naldo, Vainqueur, Fabregas, puis un attaquant et surtout ce poste d'arrière-gauche qu'il n'avait pas du tout. Déjà qu'en récupérant leurs blessés comme Ronny Lopez, peut-être Subasic qui va revenir et tout le monde à 100%, si avec cette équipe-là, ils ne se maintiennent pas, alors là, je me poserai beaucoup de questions.
Bon. Part du principe que si le football était une science exacte,
oui, ça je sais,
ça se saurait. Après, ce qui me rassure, c'est que dans une situation dans laquelle est plongée l'AS Monaco, selon tu as besoin, les jeunes tu les as déjà. T'as déjà des jeunes de qualité qui se sont plus ou moins exprimés, mais qui sont dans une situation, on peut pas leur jeter la pierre. Dans ce type de situation, tu as besoin de garçons qui sont capables, à un moment donné, de tirer tout le monde vers le haut. de supporter la pression. Elle est pas au niveau des supporters, la pression, mais la pression, la honte de descendre en deuxième division quand elle est à AS Monaco.
Puis ils l'ont déjà connu.
Ils l'ont déjà connu. Ils sont prévenus. Donc, je trouve que le recrutement est plutôt intelligent, sachant qu'on est sur le mercato d'hiver où c'est pas toujours si évident que ça de faire des coups. Faire venir Fabregas dans notre championnat quand t'es Monaco, que t'es dans 19e. Cette situation-là, c'est un gros coup.
Ah oui, bien sûr.
Faut pas.
Pareil pour Naldo.
Naldo, pareil. C'est quand même.
Beaucoup de clubs en Allemagne qui
auraient. C'est un personnage. On peut me dire ce qu'on veut. Mmh. Les derniers mois à Schalke, ici et ça. Oui. Et oh, Naldo, ouais. C'est un personnage. Il a beau avoir 36 ans, c'est quelqu'un qui, par la science, sa science du jeu, son placement, on l'a vu déjà sur le premier match qu'il a joué de Coupe de France contre Rennes, vous avez compris, ceux qui ont regardé le match, mm-hmm. Vous avez compris ce qu'il peut apporter en défense centrale.
Ouais.
Il suffit d'encore William Vainqueur, lui il est parti se perdre en Antalyaspor aussi parce qu'il y a vu l'aspect financier. Il se dit il faut que je revienne dans la lumière, et lui il est motivé comme jamais. Il vient, il te dit moi mon truc au mollet, je vous dis que c'est rien, je suis prêt à pas être payé. Donc là ça prouve la motivation du joueur. C'est un joueur qu'on a vu sous les couleurs de l'Olympique de Marseille.
Il fait beaucoup de bien.
Il y a un joueur qui est un très bon. Il est un très bon joueur qui peut te permettre aussi.
Manquait peut-être à Monaco,
de réguler ton milieu de terrain.
C'est ce qu'il te fallait au milieu.
Et puis le retour de Ronny Lopez aussi, c'est comme si tu avais une recrue de luxe là aussi.
Voilà.
Il te manque encore un chaînon manquant, c'est un accompagnement, quelqu'un qui puisse suppléer ou accompagner Falcao. Et puis t'as une équipe qui peut prétendre à sauver sa tête.
Allez, on revient dans l'after dans un instant, toujours avec Ludovico Bragnac et Ali Benarbia. On parle de foot anglais. Julien Laurence nous rejoint pour faire le point sur la 22e journée de Première Ligue. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, François Pinet.
23h46, on est de retour sur RMC pour l'After, toujours avec Ali Benarbia et Ludovic Obraniak. On est ensemble encore pour un petit quart d'heure jusqu'à minuit dans l'After. Je vous rappelle juste les résultats de la Ligue 1. Si vous nous rejoignez, le PSG s'est imposé à Amiens 3-0, victoire de Saint-Etienne à Guingamp 1-0 et victoire de Nice face à Bordeaux 1-0. La Première Ligue, le foot anglais, on accueille Julien Laurence. Salut Julien.
Good evening, bonsoir à tous.
Salut Julien. Salut à toi aussi.
Alors bon, aujourd'hui, on a pas mal de choses à dire puisque Chelsea, Arsenal, Liverpool ont joué. On va peut-être commencer par le dernier match de la journée. C'était Chelsea face à Newcastle et la victoire des Blues 2-1. Victoire grâce à Willian et Pedro.
Très beau but de Willian.
Ouais.
La spéciale.
Alors, c'est une victoire à l'arraché comme le dur, score l'indique?
Non, pas vraiment. C'est surtout la bonne affaire du jour, hein, pour Chelsea qui revient à un point de Tottenham, qui joue que demain contre Manchester United dans un match où potentiellement tu pourrais les voir perdre des points. Ouais. Et Chelsea prend aussi 6 points d'avance sur Arsenal dans cette bagarre pour la 4e place qui sera tellement importante pour les deux clubs, pour la Ligue des Champions la saison prochaine, d'un point de vue financier surtout, et d'un point de vue de standing aussi, mais surtout financièrement. Donc c'est vraiment la bonne affaire du jour pour eux. Ils ont contrôlé la rencontre, certes Newcastle a égalisé sur un corner, sur un coup de pied arrêté, mais sinon ils ont eu la possession de balle. Kanté a été très bon au milieu, ils ont eu des occasions. Le souci, encore, on en avait parlé lundi dernier dans l'after aussi, c'est le positionnement d'Eden Hazard qui, et Ludo tu pourras aussi nous éclairer, qui là joue en faux numéro 9.
J'aime moins honnêtement.
Il était obligé d'aller sur le côté pour toucher le ballon. Dans sa position d'avant-centre, surtout en Première Ligue, hein, beaucoup plus que admettons en Espagne où tu peux jouer avec un avant-centre technique. En Première Ligue, je suis désolé, tu peux pas jouer avec un avant-centre comme Eden Hazard.
Eden, il est très fort quand il a la capacité de se remettre très vite dans le sens du jeu. Voilà. Or quand tu joues numéro 9 comme
tu
ça, t'es un peu
entouré de deux Golgoth.
T'es dans le trafic. Donc dos au jeu. Il a plus de mal à se retourner. Et moi, je le préfère quand il décroche un peu, qu'il est un peu sur le côté, qu'il vient prendre sa liberté, qu'il vient après fixer, même numéro 10. Hein. Mais là, numéro 9, je suis moins sûr qu'on exploite la totalité de ses capacités.
La preuve, il cherchait où aller, parce qu'il n'a pas l'habitude. Et arrivé au moment, il a la balle, il est parti sur le côté.
Tu poses forcément la question d'un autre Français, qui est Olivier Giroud.
Ah oui. Alors il est raté à 3 minutes de la fin.
Morata, Giroud.
Alors Morata n'était même pas dans le groupe, hein, parce que Julien, je crois que Morata, ça y est, il a la tête ailleurs. Donc il cherche un avant-centre, j'imagine, à Chelsea.
Voilà, c'est ça. Il a la tête ailleurs. Morata, il a le dos ailleurs aussi, visiblement, puisqu'il se plaint toujours de douleurs au dos. Ça ça fait pas forcément, comme on vient de le dire, les affaires d'Olivier Giroud qui ne joue toujours pas de toute façon. Ils veulent un autre attaquant. Gonzalo Higuain, c'est le rêve de Mauricio Sarri, qui a travaillé avec lui à Naples, bien sûr, lors de la dernière saison d'Higuain à Naples, qui aimerait beaucoup que ça se fasse. C'est très compliqué comme transfert parce qu'il appartient à la Juve, qu'il a prêté au Milan pour 2 années, un prêt payant en plus. Donc ce serait vraiment compliqué. Cette semaine, Marca a annoncé que c'était quasiment fait. Les infos qu'on a, nous, côté Chelsea, c'est que c'est compliqué, mais qu'ils essayent. Donc voilà, on verra, ils ont encore un peu de temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, Sarri fait jouer Eden dans ce poste-là où ça marche pas vraiment. Eden ne marque pas, il est pas trop décisif non plus, il décroche beaucoup, mais il va partout sur le terrain pour toucher le ballon, sinon le ballon lui arrive pas de toute façon. Donc c'est vrai compliqué. Il faut que Sarri trouve une solution, que ce soit Higuain ou quelqu'un d'autre.
C'est le système ou il aime pas du tout Giroud?
C'est un peu des deux, je crois. C'est un peu dans le système de Sarri, dans la manière dont il veut que son équipe joue. C'est pas le numéro 9 qui est adéquat pour lui. Et après, je suis pas persuadé qu'il soit très convaincu par les qualités d'Olivier Giroud.
Après, c'est quand même tu peux faire avec. Hein. T'as vu le deuxième but. C'est Eden qui décale après une excellente prise de balle. C'est quand même lui qui décale Willian quand même. Ouais. Donc tu peux largement jouer comme ça. Ouais.
Moi, ce qui me dérange juste, c'est que tout le monde parle de il avait fait avec Mertens à Naples. Ouais, Mertens, il était remplaçant à Naples. C'était pas ton meilleur joueur, c'était pas ton joueur de couloir numéro 1. T'avais Calleron à droite et Insigne à gauche. T'as transformé Mertens en un numéro 9 très prolifique, très buteur, très efficace, super. Hazard, c'est ton meilleur joueur et c'est ton meilleur joueur sur un côté en plus. Et de là de le mettre dans l'axe, d'enlever ton meilleur joueur dans ton arme principale. Voilà, exactement. Mm-hmm. Et c'est ça qui me dérange plus que Mertens, ça a marché, c'est super, très bien.
Les meilleurs joueurs à leur meilleur poste.
Mais en plus, c'est pas ça. Exactement. Même si un meilleur joueur top, c'est s'adapter. Là, tu t'affaiblis en mettant Eden Hazard dans l'axe. T'affaiblis Chelsea parce que quand t'avais Eden Hazard à gauche et Willian à droite, tu peux mettre n'importe quel avant-centre et à la rigueur Pedro qui a cette capacité à pouvoir jouer vraiment attaquant en faux neuf. Et là, par contre, tu peux beaucoup plus faire mal.
Alors, on va parler, Julien, de West Ham. Je voulais parler de West Ham parce qu'il y a quand même un retour. Ça fait 2 matchs maintenant, mais Nasri qui est de retour donc en Première Ligue et qui a brillé quand même. En tout cas, il a fait une passe décisive pour la victoire de West Ham face à Arsenal, 1-0.
Ouais, tout à fait. Il a été plutôt bon. Samir, il a joué 71 minutes. Il avait joué 1 heure en Coupe d'Angleterre contre Birmingham le week-end dernier où il avait déjà été bon, mais c'était que Birmingham. Cette fois, le coup d'œil du destin avait fait que son premier match pour son retour en Première Ligue était effectivement contre Arsenal, cette équipe où il a joué entre 2008 et 2011. Et il a vraiment été bon. Il a joué simple, j'ai trouvé, en une touche de balle, en deux touches de balle, parfois un peu plus, mais il s'est appliqué, j'ai trouvé. Il y avait du mouvement, il y avait de la créativité dans son jeu. Il y a cette passe décisive, effectivement, sur le but de Declan Rice, le but vainqueur, le seul but du match. Et c'est vrai que parfois tu t'es dit, c'est ce qui manque à Arsenal. Il manquerait quelqu'un comme lui à Arsenal. Alors ça s'est mal terminé à Arsenal. Il y a eu beaucoup d'histoires, mais cette touche technique, elle a manqué, j'ai trouvé aujourd'hui pour les Gunners qui, dans l'ensemble, ont été décevants.
Özil n'était pas dans le groupe. Hein. Il y a vraiment un problème avec Özil. Hein.
Surtout qu'il s'est entraîné toute la semaine normalement. Il a même tweeté hier soir qu'il avait fait une semaine d'entraînement complète et effectivement, il n'était pas dans le groupe. La ligne officielle du club, c'est qu'il a encore mal au dos.
Décidément.
Mais il s'est entraîné toute la semaine. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Quoi.
Il s'est trop entraîné. Ouais. Pour en revenir à Nasri, ce qui a été impressionnant, là, je regardais encore le match là avec West Ham, c'est que ses coéquipiers, ses nouveaux coéquipiers qu'il ne connaît pratiquement pas, lui font vraiment, vraiment confiance, et il le trouve facilement, comme si ça faisait longtemps qu'il joue. Donc il a cette faculté à attirer le ballon de ses coéquipiers, et à les transmettre aussi facilement, comme s'il jouait depuis longtemps. Et ça, Pellegrini le connaît pour ça.
Ça fait quand même un mois qu'il est, un peu plus d'un mois maintenant.
Oui, non, ça fait rien, je parle à match.
Ça fait 6 semaines.
L'entraînement est une chose, je sais, mais un match, c'est totalement différent.
Je peux te le dire, je l'ai vécu, moi, des périodes d'inactivité comme ça, et revenir à la compétition, à mon entraînement, ça suffit pas, mais.
Non, c'est les matchs.
Ce qui est assez dingue, c'est après son absence
18 mois, même le rythme, au niveau du rythme.
On le voit, il a encore un poil un peu grassouillet. Mais qu'il n'est pas encore au top de sa forme. S'il est déjà capable de faire ça,
tu vas avoir
après une longue
absence
et qu'il retrouve un peu de sa forme physique optimale, ça laisse présager pour West Ham d'une très 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 bonne recrue. Là où justement certains clubs français, il y avait peut-être un coup à jouer là, peut-être, non?
Non, mais je pense qu'il voulait pas revenir en France.
Là, il était dans une difficulté quand même. Là, il y a pas tous les clubs qui après ces soupçons de dopage, 18 mois d'arrêt.
Je pense pas qu'il voulait revenir en France. Retourner en première ligne pour la
suite. Tu peux le convaincre.
Mais là, il était convaincu aussi par Pellegrini. Voilà. Qu'il a côtoyé à Manchester City.
Non, Julien, c'était si cher que ça, c'est impossible à faire pour un club français.
400 000 euros par mois.
Combien?
C'est 400 000 euros par mois.
En ayant arrêté de jouer pendant 2 ans.
Ouais. 80 000 livres par semaine, ouais.
Sans bonus, sans rien, comme ça.
Mais t'aurais dû partir en Angleterre, ouais, Ludo.
Eh ben, dis donc.
Ah oui, Ludo. Ah, Ludo. T'as arrêté ta carrière trop tôt, Ludo. Dis donc. C'est l'Angleterre que t'aurais dû jouer, Ludo, pas l'Allemagne.
L'Angleterre, c'est beau quand même.
Julien, bravo. Il y a aussi la victoire aujourd'hui à noter de Liverpool, donc le leader quand même.
1-0.
1-0 à Brighton. À Brighton. Grâce à Salah.
Pour dire que
sur penalty,
quand tu vas être champion, c'est toute la saison et contre les grosses.
Voilà, ils ont 7 points d'avance sur Manchester City qui joue lundi contre Wolverhampton.
Hein, pas tu mets 3-4-0 à Arsenal et que ça y est, tu vas battre Brighton facilement, loin de là, en Angleterre.
C'était une victoire de champion, une victoire laborieuse et c'est ce qu'a dit Klopp à la fin. Il a dit c'était notre performance la plus mature depuis le début de la saison. Il dit on n'est pas les Harlem Globetrotters, on vient pas là pour faire le show et pour pas prendre les 3 points. On est dans cette mentalité là maintenant de partout où on va aller ou à domicile, ce sera le plus important, c'est prendre les 3 points, peu importe la manière. Et ils sont vraiment, tu le sens, ils sont dans ce mode là. Et je trouve que le mot maturité que Klopp a utilisé dans sa conférence de presse d'après match était vraiment parfait, parce que tu as vraiment senti une performance mature. C'était pas très beau parfois, c'était pas très scintillant comme on en a eu l'habitude, notamment la saison dernière, mais c'était très efficace.
Mais ce que l'on évoquait, Julien, il y a quelques mois, où on se posait la question si Liverpool pouvait être un prétendant, on se disait ça dépendait aussi, on se disait déjà que malgré les prestations en demi-teinte à cette époque-là de Mo Salah, cette équipe avait quand même eu la capacité à recruter des joueurs qui pouvaient suppléer comme Shaqiri, comme Story, d'autres qui sont arrivés clair. Comme Fabinho, qui n'étaient pas encore fondus complètement dans le moule Jurgen Klopp et Liverpool. Mais on s'était dit que ça allait prendre un peu de temps, mais une fois que ça aurait pris, serait difficilement arrêtable, d'autant plus que Mo Salah revient dans une forme plutôt bonne, j'ai l'impression, depuis quelques mois.
Tout à fait.
Et que ces joueurs-là se sont parfaitement intégrés, donc Liverpool, ça commence à être crédible là, pour le titre là.
Et Fabinho a même joué défenseur central, ouais, parce qu'ils ont eu une épidémie de blessures à ce poste-là. Il a été très bon, peut-être même le meilleur défenseur de Liverpool cet après-midi.
Donc voilà, Liverpool donc toujours en tête, je vous l'ai dit, 7 points d'avance sur Manchester City.
Avec un match en retard, City.
Voilà, avec un match en retard contre Wolverhampton, ça sera lundi. Tottenham est troisième à 2 points de Manchester City, à 9 points maintenant de Liverpool. Et puis Chelsea qui revient à 1 point de Tottenham avant un match très important, Julien. On n'a pas le temps d'en parler malheureusement, mais on aura le temps demain d'en parler. Tottenham, Manchester United, 17h30. Très important pour les deux équipes. Et puis surtout, on va voir ce que vaut vraiment Manchester United avant d'affronter le PSG dans un
match. Parce que on attend aussi Tottenham qui est depuis un certain temps.
Manchester revient tout
doucement dans la course. Provisoirement, si Manchester City ne l'emporte pas, Tottenham a l'occasion de passer à la seconde place.
Merci beaucoup, Julien. Merci à vous, très bientôt, sur RMC. À très bientôt. Ciao. Dans l'After. Merci, Ali.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Toi aussi.
À bientôt. Merci beaucoup, Ludo. À très bientôt. Et puis, l'After, ce sera demain. Après le match entre Marseille et Monaco. Bonne nuit à tous sur RMC. À bientôt.
RMC Football Show. L'After Foot.